Le vicaire des Ardennes, 13e partie. Chapitre 30. Il est impossible de décrire le bonheur qui régnait dans l'hôtel de la rue de la Santé. La douce Mélanie, ayant tout ce qu'elle souhaitait, ressemblait à une sainte nouvellement admise dans le séjour des bienheureux. Cette volupté tranquille n'offre aucun trait à l'art du poète ou de l'écrivain. C'est comme la peinture du paradis que rien ne peut désigner à l'esprit, parce qu'une fois qu'on a dit « ils ont tout le bonheur possible », on a tout dit, car il n'y a pas de nuance dans la perfection. C'est le bien et le mal mélangés qui donnent seuls des choses saisissables. Enfin, la passion de ces deux êtres s'épura même dans cet état de jouissance paisible, où les passions des hommes se matérialisent et finissent par s'ensevelir. La destinée de ces deux êtres charmants était de donner à tout ce qu'ils touchaient la qualité de l'or, comme ce roi de la fable. En effet, ils ennoblissaient tout par le charme de leurs manières, la beauté de leurs âmes et la perfection de leurs qualités. Madame de Raucourt ne fut point déplacée au milieu de cette scène touchante et continue d'un amour qui devait survivre à ce qui tue les amours vulgaires. Elle garda si bien le silence sur les secrets terribles de son fils qu'elle n'en reparla même pas à Joseph. Et cette tendre mère sentit le bonheur de Joseph absolument comme si c'était le sien propre. Elle ne pouvait quitter Mélanie, dont la douceur, la beauté et le charme la séduisaient. Enfin, Madame de Raucourt, voulant rendre cette félicité durable et la mettre à l'abri de tout événement, usa de son crédit et de celui du marquis pour faire cesser les vœux de son fils et le relever de ses serments de prêtre. Elle se trouvait parente de Monsieur de C, qui était alors ambassadeur à Rome, et l'évêque d'A y connaissait un des cardinaux les plus influents du sacré collège. Ainsi, sans instruire son fils de toutes ses démarches, que le succès sembla vouloir couronner, elle comptait, un beau jour, rendre son cher Joseph tout à fait heureux en lui apportant le bref du pape qui le séculariserait et l'ordonnance du roi qui lui assurerait l'hérédité du titre et de la pairie de Monsieur de Raucourt. Ainsi, tout se préparait pour le bonheur de ce couple, et la fortune paraissait devoir leur sourire pour toujours. Quand reparut le mauvais génie, qui s'était acharné sur leur famille, comme s'il eût reçu du ciel la mission fatale de punir en eux le crime auquel Joseph devait le jour. Quoique le vicaire fût parvenu à étouffer tous les cris de sa conscience, ou du moins à les écouter sans laisser paraître sur son visage le chagrin qui le dévorait, Mélanie n'en devinait pas moins que son mari n'était pas tranquille. Un soir, que Joseph avait été obligé d'accompagner M. de Raucourt à une réunion diplomatique et que Mélanie se trouvait seule avec Mme Hamel, la jeune femme, poussant un soupir, regarda sa seconde mère et lui dit « Mère, as-tu remarqué comme parfois mon Joseph est rêveur ?»« Ma fille, c'est tout simple. Les hommes ont souvent à penser aux grandes affaires dont ils s'occupent. » Mais Joseph ne serait pas rêveur pour cela. Tiens, bonne mère, laisse-moi t'expliquer ma pensée. Je suis tellement heureuse que je ne puis me comparer qu'à un ciel pur, dont l'azur doux et tranquille ne présente aucun nuage. Eh bien, certes, Joseph ressemble à ce ciel enchanteur. Mais il y a sur lui ce voile que l'on aperçoit quelquefois dans l'air lorsqu'il fait du vent et que l'on est sur une haute montagne. Madame Hamel restait ébahie en contemplant le gracieux visage de Mélanie. Sur le front de cette délicieuse créature resplendissait toute la poésie de ses idées, que l'expression traduisait faiblement. Mélanie se mit à sourire en se souvenant que jamais la bonne femme n'avait pu se mettre à la hauteur d'une idée poétique, et elle reprit ainsi. « Écoutez-moi, ma mère. « Je t'écoute, cela me fait plaisir, mais je ne te comprends pas. » « Tiens, dit Mélanie, regarde la glace. Vois-tu cette tache qui enternit l'éclat ?»« Eh bien, dit Madame Hamel. « Eh bien, reprit Mélanie, cette tache est l'esprit de Joseph, et l'autre partie de la glace, c'est le mien. »« « Où vas-tu chercher tout ce que tu dis, petite fille ?» dit madame Hamel. « Tu t'amuses de moi. Joseph est heureux, il n'a pas de chagrin. » « Si, ma mère, il en a. C'est-à-dire, il est heureux, mais son bonheur n'est pas complet. J'ai peur. Ou qu'il ait une maladie chronique qui le ronge, ou qu'il n'ait pas trouvé en moi tout ce qu'il s'imaginait trouver. Je le lui demanderai. » dit-elle en versant une larme. « Quelle chimère tu inventes !» s'écria la bonne femme. « Non, ma mère, je n'invente rien. Pour mon malheur, mon âme lit trop bien dans la sienne. Je sens par contre-coup ce qui le blesse au cœur, car il n'a pas une pensée qui ne soit la mienne, et je soutiens qu'il n'est pas le même qu'il aurait été si, n'ayant jamais su que nous étions frères et sœurs, nous nous étions épousés à la Martinique. » « Mais qui te fait présumer toutes ces choses-là ? » dit madame Hamel en posant ses lunettes sur ses genoux et regardant la pendule qui marquait 11 heures. « Ma mère, quelquefois je le regarde, il ne me sourit pas. Souvent dans son sommeil, éveillé par des rêves ou par l'inquiétude, je tâte son front pour m'assurer qu'il est toujours là. Son front est brûlant. Il parle et il semble, en dormant, se disputer avec des étrangers qui veulent qu'il soit prêtre. Enfin, que veux-tu, mère bien-aimée? Je sens qu'il a quelque chose dans son âme. Hier, il entendait une cloche de Saint-Étienne. Il a dit « Voilà un heureux !» Son accent disait encore bien plus que sa parole elle-même. « Mélanie, interrompit la bonne femme, il est tard. Adieu !»« Adieu !» « Tu devrais rester pourtant, car Finette est sortie. » « Elle est sourde, la pauvre mère, » se dit-elle. En effet, madame Hamel n'avait pas entendu, et elle était sortie. Mélanie demeura toute seule dans son grand salon, comptant les minutes et croyant que chaque voiture était celle de Joseph. Après un moment de réflexion, elle s'écria « Bah, madame Hamel a peut-être raison, je me forge des chimères. » Quelque temps après, elle entendit le roulement d'une voiture. Le bruit approche, son cœur bat. « Oh !» dit-elle, « c'est Joseph !» En effet, le carrosse entre dans la cour, elle s'élance, la porte s'ouvre. Argot paraît. Mélanie, glacée d'effroi, tombe dans sa bergère. « Vous attendiez votre mari ?» dit le pirate avec un sourire exécrable. « Ma belle fugitive, n'ayez aucune peur de moi. Tenez, je reste à cette place, et je jure de m'y tenir. Je ne vous condamne qu'à une seule peine, celle de m'entendre. »« C'est un effroyable supplice, » répondit Mélanie, « et je veux m'en délivrer. »« Non, vous ne m'échapperez pas. J'ai tout prévu. Vous êtes à moi. » Mélanie fut en proie à une profonde horreur en voyant que les cordons de sonnette étaient coupés. « On n'en remontre pas à un homme tel que moi quand il veut se venger, » dit Argot. « Toutes mes précautions sont prises. Votre mari ne reviendra que dans 1 heure. Vos gens sont écartés, Finette est absente et on la retient. Vous êtes en ma puissance. Mais je ne vous toucherai pas. Je vous abhorre. » s'écria-t-il avec énergie. « Oui, pour goûter le charme de cette minute de vengeance, j'ai tendu, comme l'araignée, une toile invisible. Puisque je dois être un démon, je le serai jusqu'à mon dernier soupir. Et, vassal de Satan, je ferai tout le mal que je pourrai, puisque vous avez refusé de me tendre la main pour me tirer de l'ornière du crime. Ah, ne me parlez pas ainsi !» « Votre supplice est de m'entendre. Ce que je vais vous dire retentira dans votre oreille jusqu'à la mort. » Elle s'approche. « Un glaive est suspendu sur votre tête. Il tient à un fil que je vais couper. » « Non, monsieur, » dit Mélanie avec un léger sourire, « mon bonheur et ma vie ne sont plus entre vos mains. » « Enfant, » répliqua le forban avec un ricanement amer, « « je te l'ai dit, je suis extrême, et le jour que je deviendrai vertueux, je le serai trop peut-être. Mais en ce moment, je ne veux qu'une chose, me venger. Et je t'ai prévenu jadis de ne jamais exciter la tempête qui renverse les forêts, parce que tu n'es qu'une fleur. » Mélanie, immobile et l'œil fixé sur le visage énergique d'Argo, qui restait calme, ressemblait à une statue. « Un reste de pitié m'anime, » continua le pirate, « et je te laisse une minute de bonheur avant de faire pénétrer pour toujours le chagrin dévorant dans ton jeune cœur. » Maxandy se tut, puis après un moment il dit « Tu aimes, monsieur Joseph ?»«
Oh oui !»
Et un sourire vint errer sur la lèvre glacée de Mélanie. « Ton amour est fondé sur l'estime !» Elle fit un doux mouvement de tête.
« Elle va cesser !» reprit le pirate.
« N'achevez pas !»
s'écria Mélanie. Le pirate se mit à rire et lui dit « Mélanie, tu te crois belle, vertueuse ? Tu n'es qu'une infâme. Ton mariage est nul. Ton mari est prêtre. Pour toi, juge ce que tu es. »
« Je meurs !» s'écria Mélanie. « Je meurs ! Au secours ! Ah, je suis frappée à mort, je le sens !»«
Joseph, cet homme rare !» continua Maxandy en jouissant de l'agonie de sa victime. « Ce Joseph si chéri est un scélérat. Il t'a menti, il t'a abusé. »
« Non, non, » dit-elle, « mon frère est vertueux, il n'a pu vouloir me tromper. »
« Vertueux, comme toi, vous êtes plongé dans la débauche, l'infamie. »«
Est-ce tout ?»
reprit Mélanie avec calme et en contenant sa terreur. « Non, » dit Argo froidement, « ce n'est rien. »«
Et comment ce n'est rien ?»
s'écria la jeune femme en frissonnant. « Oui, tu vas venir à mes pieds, je vais t'y voir. » dit-il avec une hideuse expression de rage en lui montrant le parquet. Mélanie le regarda fixement comme l'agneau qui tremble devant le boa de l'Afrique.
« À tes pieds !»
murmura-t-elle faiblement avec l'accent du fou qui rit de sa propre souffrance.
« Oui, » reprit le forban, « je veux que ma vengeance soit éclatante. Crois-tu que je sois satisfait du chagrin qui va t'assaillir ? Non, non, je veux que toute la terre sache que tu n'es qu'une infâme, que Joseph aille sur l'échafaud.
Taisez-vous, taisez-vous, monsieur Maxandy, par grâce, taisez-vous.
Sur l'échafaud,
repartit-il en appuyant sur chaque syllabe du mot, qu'un procès criminel fasse retentir partout, Mélanie de Saint-André n'est qu'une concubine, et tu ne trouveras pas un être en France qui ne te le dise. On ne te recevra plus dans le monde. La mère ne voudra pas que sa fille t'approche, et dès demain un avis sera porté au parquet du procureur général pour l'instruire de vos crimes. Ma vengeance sera secondée par celle des lois. »
Monsieur Maxandy, si pour empêcher un tel désastre, vous voulez me voir à vos genoux, certes, je vais m'y traîner. »
La pauvre Mélanie, voyant une espèce d'hésitation sur la figure du pirate, s'avança lentement vers lui, s'agenouilla, lui prit les mains, et le contemplant avec une expression qu'aurait attendri un tigre, elle lui dit « Argo, si vous avez une mère, que vous l'ayez aimée, c'est par son doux souvenir que je vous conjure d'épargner Joseph. J'ai depuis 10 minutes la mort dans le sein, j'ai senti le coup de sa faux. Vous devez être content d'une victime telle que moi. C'est vous qui m'aurez tué, si ce que vous venez de me dire est vrai. »
Vous pouvez vous en assurer, répliqua froidement le pirate. Si Joseph est prêtre, il est tonsuré, et tel soin qu'il prenne pour vous dérober le sommet de sa tête.
C'est vrai, dit-elle avec effroi.
Vous n'avez qu'à l'examiner.
Argo, reprit-elle, je vous en supplie, gardez le secret.
Et que m'en reviendra-t-il ?
Un crime de moins, répondit-elle.
Eh bien, soit, j'y consens. Adieu, Mélanie, nous ne nous reverrons plus ici-bas.
Le pirate s'en alla doucement, en laissant l'épouse du vicaire toujours agenouillée au milieu du salon. Elle resta dans cette attitude assez longtemps, comme si elle était ensevelie dans une profonde méditation, et elle tendit ses mains en disant « Vous me le promettez ?» Il est parti. Alors elle se releva, se mit dans sa bergère, appuya sa tête sur une de ses mains, posa son coude sur le bras du siège, et elle ne fut tirée de son absorption que par une douce voix qui lui dit « Eh bien, Mélanie, ton amour sommeille, je crois. »
« Qui me parle ?»
répondit-elle d'un air égaré. « Ah, ciel, qu'as-tu, Mélanie ?» Alors elle regarda, reconnut son époux et cette céleste créature, lui déguisant son chagrin, répondit
« Ah, c'est toi, Joseph, je dormais. Quel malheur de n'avoir pas entendu ta voiture. Je n'ai pas pu accourir jusque dans l'escalier et être ramenée, portée dans tes bras. »
« Mélanie, reprit le vicaire inquiet, tu as pleuré, tu es pâle, changée, tes yeux ne me sourient plus, qu'as-tu ?»«
Tiens, dit-elle, Joseph, j'ai fait un vilain rêve, cela m'a troublée et j'aurais pleuré en dormant. »«
Pourquoi ne t'es-tu pas couchée? Il est 1h30. »«
C'est 1 heure sacrée pour nous,
dit-elle en s'efforçant de sourire, et de plus, il y a aujourd'hui 1 mois que nous sommes mariés.
Mélanie, tu trembles,
s'écria le vicaire effrayé.
C'est que j'ai froid.
Tu as froid? Et cependant voici un feu qui brûle à 2 pas.
N'importe, mon ami, je suis toute glacée,
reprit-elle. Oh non, mon cœur brûlera toujours.
Joseph, réchauffe-moi par tes baisers.
Tiens, assieds-toi là. Et Mélanie indiqua à son frère sa place ordinaire dans une causeuse. Le vicaire s'y assit. Alors la jeune femme prit la tête de Joseph et la posa doucement sur son sein palpitant.
« Qu'as-tu donc ce soir, Mélanie? Ton cœur bat avec une violence extraordinaire. Qu'as-tu, ma chérie?
Tu me caches quelque chose.
Je le répète, car ton œil ne me regarde plus avec cette charmante expression d'amour qui l'anime toujours. » Il s'y mêle un sentiment que je crains de nommer. »
Pendant que le vicaire prononçait ces mots, Mélanie, tenant la tête de son époux captive entre ses jolis doigts, caressait doucement les cheveux de son frère. Une horreur secrète l'empêchait de regarder la place de la tonsure, qui n'était pas tellement effacée qu'un œil exercé ne pût la reconnaître. La fatalité poussait la pauvre infortunée. Elle y jeta un coup d'œil furtif.
« Mélanie !» s'écria Joseph. « Mélanie !»
Le vicaire prend un flacon et lui fait respirer des sels. Elle reste immobile. Il la couvre de baisers. À cette caresse, elle rouvre son œil et le referme soudain. Le vicaire, effrayé, n'ayant aucune idée de ce qui pouvait tuer Mélanie, lui prodigua les soins les plus touchants.
« Mon ami !» dit-elle d'une voix faible. « Je te remercie. »
Puis, saisissant le vicaire par une étreinte d'une énergie terrible, elle le serra avec toute la chaleur de l'amour en l'embrassant avec cette volupté que l'idée d'un sacrifice rend plus ardente et presque frénétique.
« Mélanie, reprit le vicaire avec un ton de reproche, crois-tu qu'une pareille scène au milieu d'un bonheur pur...
« Pur ! » s'écria la jeune femme avec effroi. Mais se remettant soudain, elle dit
« Joseph, mon frisson est passé. Il a fait place à la fièvre.
Tiens !» Elle prit la main du vicaire en la portant à son front. Il tressaillit de terreur en le trouvant brûlant.
« Mon ami, dit-elle, ne t'étonne pas de me voir malade. Je t'aime trop pour vivre. Les âmes qui dirigent toute leur force morale vers un seul sentiment doivent se consumer bien vite quand leur passion est trop vive.
« Mélanie !» s'écria le vicaire en reculant de 10 pas.
« Tu me glaces à mon tour !»« Viens, viens, chérie, viens et bannis toutes tes craintes. Tu sais que les femmes ont des moments de folie. C'est une méditation trop sombre, faite au milieu de cette nuit lorsque j'étais seule. » Cette tête de mort que nous avons vue à Saint-Étienne la nuit de notre mariage, est venu s'offrir à ma mémoire. Une pensée m'a envahi. Je me suis trouvée dans une mauvaise disposition.
Que te dirais-je?
Tiens, viens, un baiser remettra tout. Ne t'absente plus. Joseph, s'écria-t-elle en l'entraînant, je me sens des forces pour t'aimer plus que jamais.
Chassant alors de son front les nuages de tristesse qui l'assombrissaient, Mélanie refoula sa douleur dans le fond de son âme. Par un admirable dévouement, elle se tut, et son mal n'en fit que plus de progrès. Néanmoins, cette scène singulière frappa le vicaire, qui devint plus pensif et qui se mit à observer l'étonnant accroissement que l'amour de Mélanie avait pris depuis cette fatale soirée. En effet, cette victime de l'amour, couronnée de fleurs comme ceux qui marchent à la mort dans le jeune âge, redoublait ses témoignages de tendresse en les imprégnant d'un tel charme que le vicaire ne pouvait s'empêcher de croire que quelque chose de surnaturel agissait en Mélanie. Ne serait-ce pas que, devant la tombe, les jouissances sont plus senties et que les étreintes à la vie ont plus de force?
Chapitre 31. Au bout de quelques jours, Mélanie, dévorée par le chagrin qui la minait sourdement, fut obligée de se mettre au lit. Elle combattit longtemps avant de prendre cette cruelle détermination, car elle sentait qu'elle ne sortirait pas vivante de son lit. Mais un matin, elle essaya de jouer quelques derniers morceaux au vicaire, devant qui elle s'efforçait de paraître bien portante. Elle se plaça devant son piano. Ses faibles doigts ne purent faire rendre des sons aux touches d'ivoire. Alors, des larmes s'échappèrent de ses beaux yeux. Elle se leva en s'appuyant sur l'instrument chéri, dont les accents plaisaient tant à Joseph, et elle regagna péniblement sa causeuse. Versant toujours des pleurs bien amers, elle pencha sa tête sur le sein de Joseph, et comme elle n'avait pas dormi une minute depuis plusieurs jours, elle y reposa dans un léger sommeil.
« Ma mère, Amel, » dit Joseph à voix basse aussitôt que Mélanie fut endormie, « savez-vous quel est le mal secret qui fait ainsi pâlir notre pauvre enfant ?»«
Mon ami, » répondit cette excellente femme en s'approchant et montrant au vicaire un visage empreint d'une mortelle tristesse. « Crois-tu que j'ai attendu ta demande ? Crois-tu que, bien que je ne sois pas l'amant de cet ange de la terre, je n'ai pas remarqué combien elle maigrit chaque jour ? Chaque jour, sa pâleur devient de plus en plus terrible. Autrefois, elle se paraît pour te plaire. Aujourd'hui, elle l'oublie. Ses lèvres deviennent blanches. Son sourire si noble, si amoureux quand elle te regarde, est triste quand ses yeux tombent sur moi. Crois-tu que tout cela m'est échappé ? Mon fils, voici 3 jours que je la questionne. La pauvre enfant n'a rien voulu me dire. Mais va, Joseph, elle t'en impose, car elle n'a pas de force. Souvent je prends sa main et jamais je ne l'ai trouvée sans une horrible fièvre. Tu ne vois pas qu'elle veut te déguiser sa souffrance pour ne pas t'affliger, ainsi que tu en agirais envers elle. Joseph, il n'y a pas de temps à perdre. Je t'assure que Mélanie est bien malade. Regarde, même dans ce touchant sommeil d'innocence, sa joue est dénuée de ces belles couleurs qui désespéraient toutes les femmes. Et par-dessous sa peau blanche, il y a une couleur funèbre. Les sanglots empêchèrent cette pauvre femme de continuer ce discours, le plus long qu'elle eût tenu dans sa vie, ne pouvait être prononcé par elle que dans une semblable occasion. Le vicaire, immobile d'horreur, regardait avec les yeux de la folie le doux mouvement du sein de sa compagne. Sa bouche entr'ouverte semblait dévorer le souffle pur qui s'échappait des lèvres décolorées de son amie. Cette grande vision d'éternité céleste qui brille sur le visage d'une vierge expirée apparaissait déjà sur la douce figure de Mélanie. Ces terribles présages que le prêtre avait remarqués à Aunay dans les traits délirants de Laurette le firent frémir, et il sentit en lui-même une horrible convulsion.
« Ange du ciel !» murmura faiblement Mélanie dans son sommeil. « Vous ne me repousserez pas !» je suis pure, je n'ai que trop aimé, voilà tout mon crime. »
« Que veulent dire ces paroles ? » dit le vicaire.
« Quand dormirai-je toujours ? »
murmura encore Mélanie en s'éveillant et jetant sur tout ce qui l'entourait les regards incertains du réveil. Une tendre expression anima son visage quand elle contempla Joseph et Madame Hamel. « Mélanie, lui dit le prêtre, tu me dois compte de tes moindres sentiments. J'exige que tu me confies le secret de ta douleur.
« Joseph, je t'aurais tout dit quand je t'aurais avoué que je souffre. »
« Mon ami, reprit-elle, je suis malade, bien malade. Mais je te le dis, parce que tu es grand, que ton âme est forte. Ainsi, ne sois étonné de rien. »
« Mais Mélanie, qui donc a pu ?»«
Mon amour, répondit-elle avec un sourire.
« Oui, Joseph, mon sang s'est allumé. Rien ne peut plus le rafraîchir, car à chaque instant ta vue l'embrase encore, et j'aime mieux mourir que de ne pas te voir. »
Mourir ? S'écria le vicaire, qui pour la première fois aperçut l'étendue du danger de Mélanie.
Mourir ? Joseph, répondit-elle avec douceur, ne sois pas si peu maître de toi, car ta douleur va m'achever. Imite-moi, mon ami, et vivons toute notre vie sans chagrin. Entoure-moi de joie, de sourire, d'amour, de tout ce que les sentiments humains ont de trésors intimes. Si je dois mourir de cette maladie qui me dévore, tu ne peux l'empêcher. Ainsi, ton âme est assez forte pour concevoir la nécessité, puisque moi, faible, je la conçois et que je m'y soumets. Que je fasse mes derniers pas sur un sable doré, comme celui que tu fis répandre sur les sentiers qui menaient au val terrible. Si je vis, le chagrin serait encore de trop. Ainsi, sois gai de toute manière. »
Cependant, la stupeur du vicaire était trop grande, et Mélanie s'écria douloureusement
« Joseph, tu précipites mes derniers instants !»
Elle tomba sur lui. Et ce fut avec bien de la peine que l'on transporta la mourante sur son lit. Aussitôt, un domestique monta à cheval et fut chercher un médecin. Il vint, s'approcha de Mélanie, et après l'avoir examinée, il affecta un air riant en s'écriant « Il ne faut à cette jolie dame-là que de la dissipation et la campagne. »
« Oui, monsieur, dit-elle, la campagne du ciel. »
ajouta-t-elle tout bas.
« Joseph, reprit-elle, et toi, mère, allez-vous-en. »
Ils sortirent les larmes aux yeux.
« Monsieur, dit Mélanie, je n'ai pas 3 jours à vivre. Vous avez dû deviner la cause de mon mal. Un événement terrible m'a porté un coup mortel. Rien ne peut me sauver, car j'en ai eu la conviction ce matin. Je dois mourir. » Vous le savez, n'est-ce pas ?
Le médecin se tut.
Tenez, monsieur, je réponds de moi jusqu'à mon dernier soupir. Je vais être gaie, riante. Promettez-moi, jurez-moi seulement d'abuser mon mari et de lui persuader que ce n'est rien, que je suis effrayée d'une bagatelle. Dites-lui, pour mieux le tromper, de prendre soin, ainsi que Madame Hamel, de m'ôter de la tête les idées qui s'y sont glissées. Que ce que je m'imagine peut retarder ma guérison, que mon imagination trop vive m'abuse, et que si l'on ne me détrompe pas, je tomberai en langueur. Alors mon mari ne m'offrira pas le cruel spectacle de sa douleur, et j'emporterai dans ma tombe l'espoir qu'il me survivra. Je ne serai pas la plus malheureuse. »
Le médecin, frappé de ce discours, la regarda avec admiration et surprise.
« Ah, madame, dit-il, si telle est votre mort, comment avez-vous donc vécu ?»
Elle se mit à sourire et lui dit « Me promettez-vous ? »
« Oui, madame. » « Ainsi, répliqua-t-elle, vous viendrez de temps en temps, et chaque fois vous leur direz que je vais beaucoup mieux. »
« Ils sont à la porte, reprit-elle.
« Allons, mes amis, entrez, s'écria-t-elle doucement.
Le vicaire revint
et regarda tour à tour Mélanie et le médecin. Ce dernier se leva, après avoir écrit quelque ordonnance insignifiante. Madame Hamel et le vicaire s'empressèrent de le suivre. Il fut fidèle à ce qu'il venait de promettre à Mélanie. Aussi, le prêtre et la vieille femme rentrèrent-ils avec un visage riant et satisfait. « Mélanie, dit le vicaire, dans un mois tu danseras au bal. Si alors Monsieur de Raucourt a obtenu mon ordonnance pour la pairie, nous aurons ici une superbe assemblée pour célébrer ta convalescence. Ce n'est rien, ma bien-aimée. » Là-dessus, il s'entretint longtemps avec la courageuse Mélanie, qui feignit de se laisser convaincre par le vicaire. Jamais elle ne fut plus touchante, plus gracieuse, plus caressante que dans cette dernière période de sa vie. Pas une plainte ne sortait de sa bouche, et pour donner le change, elle déguisait les souffrances cruelles de sa maladie sous une toilette recherchée, en sorte qu'elle conservait une espèce de fraîcheur. La fièvre animait son teint par une couleur qui la rendait brillante de beauté. Elle ressemblait parfaitement à ces lampes nocturnes qui, près de s'éteindre, jettent, avant d'expirer, une dernière lueur. Sa conversation même avait une douceur, une grâce qui ne venait pas de la terre. Lorsque la fièvre cessait et que son visage prenait cette teinte livide avant-courrière de la mort, qu'elle devenait pâle, défaite, que ses beaux yeux se ternissaient et que son malaise était trop évident, elle feignait de vouloir quelque chose de rare et elle exigeait que ce fût son mari qui courût l'acheter. Le vicaire, trompé, sortait et parcourait Paris. Lorsqu'il revenait avec la fleur, le bijou, le livre, la parure qu'avait souhaité Mélanie, il la trouvait animée et brillante. Dans ses derniers moments, elle accabla son mari d'épreuves de la vive tendresse qu'il avait embrasée depuis son jeune âge, et Joseph était étonné de ce redoublement d'amour. Madame de Raucourt fut trompée par son fils sur la gravité de la maladie de sa fille, et bien qu'elle fût la voir souvent, elle ne comprit jamais que Mélanie était en danger. Elle riait et pleurait avec elle, et la jeune malade était en proie à une joie céleste, en s'apercevant que tout le monde, excepté Madame Hamel, donnait dans le piège qu'elle avait tendu. Quant à la pauvre mère Hamel, assise au chevet de Mélanie, elle pressentait sa mort, et contenait son chagrin avec un courage héroïque. Cette femme simple et admirable cachait une âme sensible et joignait à une fermeté stoïque la chaleur de sentiment de son sexe. Elle semblait, dans la chambre de sa fille chérie, être tranquille, calme, et elle lui rendait mille petits services avec l'amour et l'activité d'une mère. Cependant, son œil fixait Mélanie et devinait à chaque geste sa pensée secrète. Madame Hamel savait que sa fille allait mourir, et elle se disait à elle-même avec sang-froid « Je la suivrai ». Un matin, on était au mois de mars, Madame de Raucourt entre précipitamment à l'hôtel, et son fils, en voyant les chevaux de sa mère couverts de sueur et leur harnais blanchi par l'écume, jugea qu'elle venait d'apprendre quelque chose de bien important. Cette bonne mère s'élance dans les escaliers, elle se précipite dans les appartements, tombe dans les bras de son fils et jette sur la table le bref du pape qui sécularisait Joseph et l'ordonnance du roi qui lui donnait le nom de Saint-André de Raucourt, le titre de comte et le droit de succéder à Monsieur de Raucourt dans la pairie. Joseph s'évanouit de bonheur. Il se réveille et s'écrie « Oh, ma mère, tu me rends l'honneur et je te dois deux fois la vie. Mon fils, ton mariage est maintenant légitime. » Le prêtre, rayonnant d'espoir, joyeux d'une joie indescriptible, entre dans la chambre de Mélanie, en proie à un violent accès de fièvre. Elle sourit en voyant la mère et le fils joyeux. Joseph, arrivé près du lit de sa femme, lui prend la main, la baise avec ardeur. Il veut parler, les bouillonnements de son sang l'en empêchent. « Joseph, qu'as-tu ?»« Mélanie, en t'épousant, j'étais prêtre. « Je le savais !»
répondit-elle en pâlissant. Joseph et madame de Raucourt restèrent stupéfaits. « Et, dit-elle,
c'est là ce qui me tue, Joseph. Je t'ai plus aimé, peut-être. »
« Qui te l'a dit ? » interrompit le vicaire. « Quel est le monstre ?»«
Argot, il y a 3 semaines, est venu me révéler ce fatal secret. Va, il s'est bien vengé. »
« Mélanie, Mélanie !» s'écria le vicaire. « Je ne suis plus prêtre. Voici le bref du pape qui... »
À ces mots, dit sans ménagement, « Mélanie,
la plume m'échappe. » Voyez-vous, dans la rue des Amandiers, 2 corbillards, bien simples, s'avançaient lentement vers le champ du repos. Un seul homme suit le premier. Cet homme est pâle, il est défait, il ne regarde que la terre. Il ne pleure pas. Une femme suit le second. C'est Finette qui pleure, madame Hamel. Le temps est gris et la terre souillée par une boue liquide. Joseph et Finette ne voient rien. Malgré le peu d'éclat de cette pompe funèbre, beaucoup de gens s'arrêtent et contemplent un des plus touchants tableaux que la douleur ait offert. Madame de Raucourt n'a plus revu son fils, bien qu'il lui ait promis de revenir. Les anges des cieux ont repris le présent qu'ils avaient fait à la terre.